Bonjour et bienvenue dans l'émission Écolo d'IDFM Radio Mission Verte, chaque jeudi de 10h à 11h. Je suis Laurence, vous pouvez nous écouter sur le 98.fm ou sur idfm98.fr. Alors au programme de ce jeudi 2 juin, des invités. Tout d'abord Laetitia Santos, co-organisatrice du festival Nomad Festival qui se tient du 3 au 12 juin dans le Val d'Oise. Ensuite nous irons dans le jardin avec Jean-Paul Torres qui est l'auteur d'un très beau livre Solutions pour un jardin résilient. C'est paru aux éditions Terre Vivante. Et enfin, Anthony Offret, un scénariste, illustrateur, dessinateur de bande dessinée qui nous propose Le Mirage de la Croissance Verte, paru chez Delcourt. Et puis, dans une seconde partie d'émission, comme d'habitude, nos rubriques habituelles. À tout de suite. Et nous retrouvons Laetitia Santos, bonjour.
Bonjour Laurence.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un événement dont c'est la 8e édition déjà, qui va se tenir là d'ici quelques jours, du 3 au 12 juin, dans le Val d'Oise. Il s'intitule Nomad Festival. Alors avant de parler de ce Nomad Festival, déjà est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même, vous êtes la co-organisatrice, mais c'est pas organisatrice d'événements qui est votre moteur de travail à la base. Vous êtes agent de voyage.
Alors, je ne suis pas agent de voyage non plus, je suis journaliste et j'ai fondé un média qui s'appelle Babel Voyage, il y a déjà 12 ans de ça maintenant, qui est un média donc web de sensibilisation au tourisme engagé, tourisme alternatif, à la rencontre des populations, dans le respect des cultures et de l'environnement. Et je suis moi-même originaire de Cergy-Pontoise et c'est comme ça que je me suis alliée à un moment donné à l'office de tourisme de Cergy-Pontoise et qu'ensemble on a monté ce festival de nomades. Donc c'est effectivement la 8e édition cette année.
Et donc oui, c'est la rencontre entre votre média et l'office de tourisme qui a donné naissance à ce festival. Alors c'est un festival qui est de plus en plus à l'écoute de nos attentes hein, en tant que citoyen qui a des valeurs, parce que quand on pense vacances, on pense pas forcément environnement, écologie, on pense plutôt profiter un maximum pour un moindre coût à partir, peut-être très loin, et on n'a pas du tout idée que derrière, eh bien, on a un impact.
Absolument, et pourtant on a un impact et c'est essentiel d'en être conscient. Ben, les temps qu'on vit, on ne peut plus partir en club à Cancun une semaine comme ça sans se demander l'impact que l'on a, que ce soit avec l'avion ou que ce soit en local également. Donc c'est vrai que nous, on essaie de défendre un tourisme plus engagé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va moins profiter, ça ne veut pas dire qu'on va forcément payer excessivement plus cher, mais ça veut dire qu'on va utiliser des biais différents, qu'on va favoriser l'économie locale, qu'on va réfléchir à ses moyens de transport, aux activités qu'on va faire sur place. Et par expérience, je pense que le voyage engagé, le tourisme engagé procure des sensations et des expériences de vie extraordinaires et certainement beaucoup plus riches que quand on va dans un club à l'autre bout du monde. Alors, sans jeter la pierre non plus sur les clubs de vacances, c'est pas l'objectif. Quand on va en club, généralement, c'est pour se reposer. Mais il y a toute une réflexion à avoir. Si on veut uniquement se reposer, est-ce que ça vaut le coup d'aller à l'autre bout du monde? Pas sûr, pour le coup. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on peut plus se permettre ce genre de choses. Et donc, il faut repenser, en fait, notre approche du voyage, du tourisme. Et c'est tout ça auquel l'événement invite à réfléchir, mais de façon sans se prendre la tête et de façon vraiment décontractée et voilà, au travers de films, au travers de concerts, au travers de rencontres, au travers d'artisanat. L'idée, c'est vraiment de toucher un maximum de monde avec des façons de faire qui pourront parler au plus grand nombre et vraiment au grand public.
Alors justement, ce Nomad Festival s'est ouvert à tous, enfants, familles, retraités, vraiment tous ceux qui veulent voyager, mais avec des valeurs, on le rappelle, ces valeurs, c'est respectueux, tolérant, curieux, ouvert d'esprit, positif, humaniste et puis éco-responsable, qui est vraiment la cerise sur le gâteau. Les gens, je pense, ont beaucoup réfléchi avec la période Covid, en partant moins loin parce que ça pouvait être dangereux si on tombait malade à l'autre bout du monde, et en redécouvrant un patrimoine local, que ce soit donc dans l'Hexagone ou dans l'Union européenne, sans avoir à prendre l'avion, sans avoir un impact écologique dans des grands complexes. On pense à Costa Brava. On peut trouver des logements plus proches de l'habitant. On peut découvrir aussi un patrimoine, que ce soit un patrimoine humain, un patrimoine de bâtiments historiques, etc. Pas forcément très loin et qui nous remplit pareil. Hein. De ce besoin d'être proche de l'autre, d'aller à la rencontre, ce sont donc c'est tout cela qu'on a plus en tête depuis la période Covid.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu un éveil des consciences. Les consciences ont été aiguisées avec ce Covid. Tout le monde a cherché à partir moins loin. Tout le monde s'est aperçu, je crois, que finalement, tout près de chez soi, en France, vraiment aux portes de la France, chose magnifique, des expériences de vie tout aussi belles finalement qu'en partant loin. Et c'est une des grandes batailles aussi du festival, c'est de à la fois de promouvoir des territoires lointains, mais aussi beaucoup le tourisme local, vraiment tout proche de chez soi, et de se dire qu'on peut partir à l'aventure vraiment en partant de chez soi finalement, qu'on peut voyager en France normalement, et que c'est plus une question de regard et d'état d'esprit et de manière de faire, parce que dès l'instant où on rencontre l'autre, c'est déjà un voyage en soi. Au quotidien, on a l'habitude en fait de notre environnement, de son propre territoire. On ne le regarde plus de la même façon, et pourtant il y a énormément de choses à découvrir. Donc c'est vrai que là, ce week-end par exemple, 4, 5 et 6 juin, on a créé cette année une programmation vraiment spécifique au tourisme durable en local, où on invite les gens à partir randonner à pied, avec des ânes, en bateau, à vélo, pour redécouvrir son propre chez-soi finalement, et se rendre compte que on peut vivre des choses, avoir des sensations pleines, riches, vraiment tout près.
Alors pour celles et ceux qui veulent découvrir ce très long festival qui tient sur plusieurs jours, on a tout le programme sur le nomadfestival.com, et on découvre notamment donc de très nombreuses rencontres, un ciné-débat, des expos, des concerts, des ateliers, vous appelez le week-end slow tourisme, tout ce que l'on peut faire. Alors c'est un accès gratuit.
Ouais, la majorité du festival est un accès gratuit. Il y a quelques séances de cinéma payantes, mais vraiment très peu chères. L'idée étant effectivement que ça puisse toucher le plus grand nombre, qu'on soit voyageur ou pas, simple curieux, qu'on soit jeune ou plutôt personne âgée. Ça fonctionne aussi avec des enfants, puisqu'il y a vraiment des propositions spécifiques pour un jeune public. Donc voilà, on veut s'adresser au plus grand nombre. C'est très important pour nous.
Alors, dans des rencontres notamment, on retrouve un local, Gilles Lemaire, qui a son âne, accompagne son Anatole et puis son chien. Il fait de très nombreuses randonnées à travers le Vexin. Mais on a aussi des voyages un peu plus lointains. Il y aura, si j'ai bien compris, Titouan et Zoé Lamazou qui vont nous faire découvrir la Polynésie.
Oui, absolument. Donc Titouan Lamazou, qui est ce grand carnétiste de voyage, qui a peint notamment les femmes du monde et qui a été célèbre pour ça, mais aussi parce que c'est un navigateur, le premier à avoir remporté le Vendée Globe. Et il sera avec nous, effectivement, et avec sa fille, le samedi 11 juin, à l'office de tourisme de Cergy-Pontoise, donc pour venir nous parler de la Polynésie, qui est la dernière destination sur laquelle il a produit un ouvrage magnifique. Et tous les deux viennent nous en parler. On a une expo aussi de portraits, de paysages absolument somptueux sur la Polynésie. Et donc ouais, ça promet une rencontre très riche, très lointaine, mais vous l'avez dit, avec toujours en exergue le côté proche, le côté local, et Gilles Lemaire avec cette figure qui a traversé le Vexin avec son âne sur 100 km le temps d'une semaine, et qui a fait des rencontres tout aussi incroyables que celles de Titouan en Polynésie.
Et puis on parle aussi d'autres pays comme la Namibie, la route des épices, l'Iran, le Cambodge. On va vraiment voyager très loin, comme quoi ce n'est pas incompatible avec votre festival. On peut découvrir des destinations où il faut prendre donc des longs courriers. On a aussi tes rencontres littéraires avec des auteurs tels que Franck Chanloup, Jacques-Olivier Trompa, Katia Astafiev, Solène Bardet, Aurélie Croisier de Lac-Vivier. Il y a, on le rappelle, donc des expositions, des concerts et puis des ateliers qui sont des do it yourself. Là encore, hein, imaginez autrement hein, comment appréhender une culture avec l'art sacré des parures en plume. Il y a l'art du portrait, là, on rappelle le travail de Thuron Lamazou, entre autres. Il y a aussi des initiations à la méditation, là encore. Hein, ce sont des activités de voyage, notamment lorsqu'on va en Asie. Et là, pareil, on peut ainsi, à partir de 12 ans, découvrir des activités de vacances qui n'ont pas un impact sur l'environnement et qui nous reconnectent à l'autre, à la nature.
Oui, merci de citer tout ça. Je pense que ça montre effectivement la richesse de la programmation et de ce qu'on souhaite offrir au public. Ça montre aussi qu'on peut aussi voyager justement par le biais de la culture sans forcément partir, sans forcément que ce soit du tourisme ou des vacances. On peut partir juste le temps d'une heure, le temps d'un film, le temps d'un concert. On peut se familiariser avec une culture étrangère par le domaine de la culture. Ça, c'est aussi un message très 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 fort et très important. Et puis, si on souhaite partir, eh ben, le Nomad Festival donne des clés pour ça. Il y a un côté vraiment pratique qui se tient notamment au moment du village. Donc là, c'est le 11 et le 12 juin, pareil, sur le parvis, l'Office de tourisme de Cergy. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir des clés au public, c'est-à-dire qu'il va y avoir des agences de voyage lointaines ou proches, et vous allez pouvoir vous adresser à elles et puis imaginer votre voyage avec elles. Et elles ont des clés, savoir comment partir de façon plus engagée, en étant plus respectueux. Elles ont des destinations aussi à vous soumettre, des destinations qui vont être plus originales, moins courues, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, qui souffrent un peu d'a priori ou de mise en lumière, de communication, et qui pourtant sont de magnifiques destinations. Il faut savoir que la majorité des touristes vont dans les mêmes endroits. Il y a des chiffres assez étonnants là-dessus, qui montrent que les gens vont tous au même endroit, alors qu'il reste des territoires totalement vierges, beaucoup moins fréquentés, et que si finalement la répartition de tous ces touristes se faisait mieux, l'environnement notamment en pâtirait moins aussi. Donc voilà, il y a plein de choses à repenser en matière de tourisme, de voyage et de sensibilisation à l'autre, et on espère inspirer et vraiment donner des clés concrètes aussi par le même biais.
Alors, le village, j'ai vu aussi qu'il y aurait des artisans du monde et des artisans plus locaux. Ça tient donc du 11 au 12 juin. L'accès est libre. Le village se trouve exactement à Cergy?
Oui, sur le parvis de l'Office de tourisme de Cergy-Pontoise, qui est vraiment sur les bords de l'Oise, avec les remparts de la ville de Pontoise en fond, en toile de fond. Donc c'est assez chouette. Et puis l'idée, c'est effectivement donc il y a un grand marché d'artisanat, il y a 100 mètres carrés de librairie du voyage, il y a des agences de voyage, je le disais tout à l'heure, beaucoup d'artisans locaux et lointains aussi, et puis des concerts de plein air sur ce même parvis.
Gratuit
à l'intérieur, ouais, toujours gratuit. Des rencontres en salle de conférence qui sont là aussi entièrement gratuites. Et puis des ateliers, donc là payants, puisque c'est des ateliers vraiment en petits groupes, mais à des tarifs assez modestes. Et vous l'avez cité tout à l'heure, il y a des choses aussi variées que des ateliers de carnet de voyage pour apprendre à dessiner et à se faire un petit carnet quand on part en voyage. Il y a des ateliers de photographie, il y a de la méditation, il y a du reiki, il y a des ateliers de danse. Donc voilà, c'est hyper riche et accessible vraiment à tous durant tout le week-end.
Alors celles et ceux qui veulent en savoir plus, no-mad-festival.com, vous aurez tout le programme. Cliquez sur pratique pour savoir exactement où se trouve les lieux à visiter. Y a-t-il une billetterie en ligne ou faut-il directement se rendre sur place et puis
Alors, pour tout ce qui est en gratuité, vous pouvez venir directement sur place, notamment pour tout ce qui a trait au village. Pour le reste, sur le site officiel du Nomade, dont vous avez donné l'adresse, il y a toutes les billetteries à chaque fois pour les films dans les cinémas. Notamment, voilà, c'est surtout les films qui sont à réserver. Et les ateliers aussi, les ateliers qui sont en petits groupes, j'en parlais, donc il y en a qui sont déjà complets, mais pour les autres, toutes les billetteries sont en ligne sur le site officiel.
Donc on rappelle, du 3 au 12 juin, c'est déjà la 8e édition, le temps passe très vite. Merci à vous Laetitia Santos, on vous souhaite beaucoup de succès pour cette nouvelle édition.
Ouais, un grand merci Laurence.
Ouais, je vous en prie.
Merci pour ce bel échange.
À bientôt, au revoir.
À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir. I'll be your algorithm. Follow your body and watch every way you move. I'll be your algorithm. Your algorithm. I'll be your algorithm. Every step you take, every choice you choose. I'll be your algorithm. Your algorithm. Maybe you got a lot of followers, but that don't mean much to me, because all they're doing is clicking their fingers, but they're never gonna know your universe. I'm gonna give you what you need, you don't know, but I already sowed the seed. Spend time in my everlasting feed, we were made for each other. I'll be your algorithm, follow your body and watch every way you move. I'll be your algorithm, be your algorithm. I'll be your algorithm, every step you take, every choice you choose. I'll be your algorithm, the algorithm. Nous sommes avec Jean-Paul Torres, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un très bel ouvrage à mettre entre toutes les mains. Il s'intitule « Solutions pour un jardin résilient ». C'est paru aux éditions Terre Vivante. Alors avant de parler de ce très bel ouvrage, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter auprès de nos amis auditeurs ?
Oui, alors je suis retraité, mais toujours très actif, notamment dans le domaine du jardinage bio. J'ai travaillé en gros une bonne partie de ma vie dans l'édition et j'étais rédacteur en chef d'un journal de jardinage bio qui existe toujours et qui s'appelle 4 saisons du jardin bio. J'ai été éditeur et fondateur des éditions Terre Vivante. Et puis après, j'ai passé aussi de longues années dans une agence régionale de l'environnement en Haute-Normandie, à Rouen.
Alors autant
comme directeur.
Autant dire à nos amis auditeurs que vous êtes un connaisseur et une personne éclairée sur le sujet. Alors solution est au pluriel. Résilient est un mot qu'on entend beaucoup depuis quelques années et pour cause. Aujourd'hui, la nature, on lui demande, hein, comme à l'humanité, d'être résiliente. Est-ce que vous pouvez donner quelques définitions pour celles et ceux qui ne sauraient pas vraiment de quoi il s'agit, le mot résilient? Déjà ?
Oui, disons que quand on l'applique au jardin, parce qu'on peut appliquer ce mot-là à plein de domaines, hein, on l'entend actuellement à l'échelle économique, à l'échelle politique, à l'échelle sociale, ou même à l'échelle personnelle. Hein. Mais quand on parle de résilience au jardin, on parle de mettre le jardin en condition pour résister aux crises qui se présentent forcément dans un jardin, surtout en ce moment où on subit une crise climatique que tout le monde connaît et qui est importante. Et puis il y a également d'autres crises comme celle de la biodiversité, avec un appauvrissement de la biodiversité, l'arrivée d'espèces ravageuses diverses et variées. Et puis il y a aussi une troisième crise à laquelle on pense moins quand on est au jardin, mais c'est celle de la pollution. Alors c'est des sujets qui sont peut-être pas très glamour, quoique, mais en tout cas, il y a matière, quand on est jardinier, à travailler à cette résilience, parce que c'est une façon d'avoir un jardin, un beau jardin, qui résiste bien, qui s'adapte au contexte actuel. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de lutter, hein, contre les causes de ces problèmes qu'on a.
Alors justement, on va y revenir sur ces trois grandes parties de votre ouvrage, la crise climatique, la crise de la biodiversité et évidemment cette pollution endémique que l'on a, parce que là pour le coup il n'y a pas de frontières, on l'a subi tous et toutes. Alors justement, lorsqu'on est dans la première partie face à la crise climatique, vous nous rappelez déjà, dans le bon sens paysan, on avait cette conscience du climat, du rythme des saisons. Et là vous nous les rappelez. C'est important pour surtout pour celles et ceux qui vivent en ville depuis toujours, qui ont oublié ces fameuses saisons, ces aliments, ces fruits, ces légumes, tout ce que l'on doit découvrir, non pas les roses un 14 février comme on voit chaque année pour la Saint-Valentin. Chaque plante, chaque fruit, chaque légume a une saison. Donc vous nous le rappelez dans une première partie, c'était déjà important de remettre l'église au cœur du village.
Exactement. Oui. Alors, c'est bien sûr, il y a des choses qu'il faut sans cesse rappeler, et surtout quand on est dans un monde de plus en plus urbain, donc un petit peu déconnecté des réalités de la nature. Donc, rappeler ce que c'est que le climat, et puis aussi, c'est d'autant plus important que nos repères bougent. Il y a quelques décennies, le climat c'était quelque chose qui ne variait pas, enfin à l'échelle humaine. Et dans l'époque actuelle, enfin moi j'en ai été le témoin, et c'est de ça que ce livre est né, c'est que j'ai observé les changements qui intervenaient dans la nature, dans le jardin, avec le changement du climat. Les signes sont déjà très très visibles.
Alors vous donnez dans votre ouvrage des graphiques, une carte de France avec les anomalies de température, de sécheresse. Là, on en parle beaucoup là depuis quelques semaines, voire quelques mois, surtout dans une partie de la France, en Vendée, etc., où on voit une chute d'hydrométrie que l'on n'a pas l'habitude d'avoir en plein hiver, au printemps. Donc on retrouve dans votre ouvrage des sources, des cartes de France avec des enfin c'est alarmant quand on découvre ça, parce qu'on en a pas conscience. On est content quand il fait beau, quand il ne pleut pas. Or c'est un vrai drame pour la nature, pour nos agriculteurs.
Oui, on est bien sûr, on se rend pas forcément compte des changements. On est un petit peu déconnecté. La sécheresse c'est quelque chose de un peu théorique quand on est dans sa maison ou dans son appartement, mais quand on est dans son jardin, comme quand on est dans un champ, quand on est agriculteur, c'est exactement la même chose. On est tout à fait connecté à ce problème. On l'a sous les yeux, et c'est vrai pour tous les autres aléas, enfin problèmes entre guillemets que le climat nous pose actuellement. Le jardinier, il est aux premières loges, et donc le premier concerné. Et dans avec des repères qui bougent comme actuellement, on a besoin de recaler nos pratiques jardinières dans le bon sens, changer de calendrier, choisir les bonnes plantes, parce que tout ça c'est appelé à changer. Oui,
donc, il faut le rappeler, c'est maintenant à nous d'adapter notre jardin à ces changements. On reviendra pas en arrière.
Il faut s'adapter. Alors, il faut lutter contre le changement climatique par nos pratiques de citoyens tous les jours. Mais en tant que jardinier, on est un peu condamné à s'adapter, comme les agriculteurs doivent le faire, comme beaucoup de métiers doivent le faire également. Mais c'est des métiers en relation avec la terre. Enfin, quand je parle du métier de jardinier, c'est pas tout à fait un métier, mais enfin, c'est un métier qui est quand même en relation avec les éléments, avec la nature. Et on est aux premières loges pour justement s'adapter, parce que sinon on réussira pas.
Alors vous rappelez que par exemple il faut booster le bio, alors à travers des engrais verts, le paillage, le binage, le compostage, le potager c'est un puits de carbone, et il faut savoir optimiser donc certaines pratiques.
Oui, alors le pourquoi je parle de bio puissance 2 ou booster le bio. Le bio c'est quelque chose qui commence à être bien connu, mais on sait pas assez que c'est un moyen non seulement d'avoir un beau jardin, mais aussi de rendre ce jardin beaucoup plus résistant par des choses assez simples comme l'humus. L'humus, c'est cette substance qui est dans la terre, qui est entretenue quand on apporte du compost. ou du fumier. Et cet humus, il est un petit peu magique dans le sens où il est capable de à la fois de stocker de l'eau, de bloquer des polluants, d'enrichir la biodiversité du sol et donc de faire qu'il que le sol fonctionne mieux et donc produise mieux. Donc c'est un des aspects du bio qui sont importants et pour lesquels il faut être très attentif, plus que jamais. Donc faire du compost, faire du paillage, comme vous l'avez dit, faire des choses qui est moins connues, des engrais verts, ou bien tout simplement adopter les bons rythmes de tonte pour son gazon, semer les bonnes fleurs,
Surtout
etc.
que c'est économique, hein, aussi.
Oui, alors ne parlons pas de l'économie, parce que le bio... c'est une façon d'utiliser les ressources naturelles, celles qui sont à notre disposition, hein, de l'herbe, des écorces, les déchets de la cuisine, etc.
C'est vraiment, c'est optimiser tout ce que l'on a, ce qu'on faisait il y a encore 50, 60 ans, où on utilisait très peu, on utilisait dans son potager moins de chimiques, même si on l'utilisait déjà. En attendant, il y a un siècle, deux siècles, on n'utilisait pas tous ces outils, tous ces produits, et la terre était généreuse, la nature était généreuse.
Oui.
Et il faut revenir à ces pratiques anciennes qui font qu'en plus...
Les produits chimiques, c'est jamais qu'une parenthèse relativement courte dans l'histoire des jardiniers. Mmh. Et là, on est en train de, je dirais pas de revenir, parce que en fait, c'est pas un retour en arrière, on progresse, on connaît mieux les choses.
Oui.
Les engrais verts, c'est quelque chose d'assez récent. Même la façon de faire un bon compost, ça a fait des progrès. Donc je parlerai pas d'agriculture ou de jardinage de.
Non, oui, enfin ce que je voulais dire, c'est
que... On est dans quelque chose de progressiste quand même.
Voilà. C'est juste que les engrais chimiques ne sont pas des nouveautés du 20e siècle, elles existaient déjà avant. Néanmoins, elles étaient beaucoup moins utilisées par les jardiniers du quotidien, les jardiniers qui ont des jardins potagers, des vergers. C'est vraiment revenir déjà pour sa propre santé, parce que quand on consomme des produits qui ont été traités, on découvre au fur et à mesure que les années passent et que les études évoluent, que c'est pas bon, qu'en plus on appauvrit nos sols, et on arrive au chapitre 2, la crise de la biodiversité, car nos amis oiseaux et autres insectes qui font tout le travail gratuitement, là encore, disparaissent à cause de nos mauvais usages de ces produits, entre autres.
Oui, on a sous la main tout ce qu'il faut, en fait, pour produire dans un jardin comme dans une ferme. Et c'est tout ce que je présente dans mon livre, en fait, c'est ça, adapté à un contexte qui est en train d'évoluer et qui nous oblige à connaître mieux ce qui se passe. Donc c'est un peu l'ambition de ce livre, c'est de montrer, d'apprendre au lecteur des choses, tout simplement, sur ce qui se passe actuellement et qu'on a du mal à décoder, hein.
Alors, il y a des chapitres, dans vos chapitres, vous avez des encarts en direct de mon jardin. Alors, vous rappelez vraiment ce que vous constatez, vous, dans votre jardin. Donc, on est vraiment dans vos bottes, hein, de jardinier.
Oui.
Par exemple, on parle des oiseaux, mais on a souvent aussi des chats. Et les chats ont un usage, hein. C'est très bien, les chats, hein, quand on a des petites bêtes à quatre pattes là qui viennent ravager les jardins potagers. Or, les chats ont aussi la tendance à aller faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire chasser les oiseaux, entre autres, et pas seulement les souris. Alors, vous nous rappelez aussi les espèces d'oiseaux que l'on peut voir au jardin et qui disparaissent. C'est terrible, hein. Ce sont des oiseaux formidables qui ont des couleurs mais incroyables. Chardonneret élégant, les chouettes. Alors, les chouettes, moi, je me rappelle qu'on étudiait ça à l'école en sciences naturelles, mais on en entend presque plus dans les forêts. Vous avez des bouvreuils, c'est magnifique. Et on voit, ce sont des dizaines et des dizaines d'espèces que l'on voit de moins en moins. Et il est aussi question des hirondelles.
Vous avez raison d'insister sur la beauté de cette biodiversité, parce que c'est un élément important dans la résilience, en fait. Le cultiver la beauté du jardin, c'est pas contradictoire avec le fait d'avoir un jardin qui résiste aux pollutions, à la crise de la biodiversité ou aux aléas du climat. Hein. Ça n'empêche pas d'avoir des choses très très belles. Et les plantes les plus résilientes, c'est souvent parmi les plus belles aussi. Mmh. Et puis les oiseaux, c'est une source de beauté, effectivement. Eux, quand ils sont dans le jardin, ils nous aident aussi, par exemple, en luttant contre les pucerons sur les arbres fruitiers. C'est les oiseaux qui nous aident dans ce domaine-là.
Et nous,
donc, la beauté de ce qu'on a autour de nous, c'est très important aussi.
Et à notre tour, on peut aussi les aider grâce à des conseils tels que ceux que l'on trouve dans arbres et arbustes pour une haie résiliente, car il faut leur trouver aussi le gîte à ces oiseaux.
Oui, absolument. Et quand on pense oiseaux, souvent, je vois ça autour de moi, on pense nourrissage, on pense nichoir, boîte à oiseaux. Et en fait, c'est un aspect de la question, mais il est relativement moins important que le fait d'avoir un milieu qui soit accueillant pour les oiseaux, avec beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbustes, qu'on laisse tranquille pendant une partie de l'année pour laisser nicher les oiseaux. Et donc cet aspect, ce que j'appelle la trame écologique, c'est-à-dire les arbustes, les haies, la petite mare qu'on peut avoir, toute cette trame écologique, c'est ce qu'il y a de plus important pour les oiseaux et aussi pour les autres petites bêtes qu'on connaît moins.
Oui, puis on rappelle, hein, ce sont les papillons, enfin les abeilles, les guêpes, etc., qui font la pollinisation, qui vont faire que derrière on aura des fruits, des légumes.
Oui, oui, ce qu'on appelle l'écologie, hein, tout simplement, et d'utiliser ces chaînes alimentaires, les auxiliaires qu'on a à portée de la main, tout ça, ça existe et c'est. C'est à nous, en fait, de savoir valoriser toutes ces aides gratuites qu'on a autour de nous.
Alors, on a votre ouvrage compte plus de 300 pages, enfin presque 300 pages. On a des conseils très très nombreux sur tous les aspects de ce que l'on peut découvrir dans le jardin qu'il faut essayer d'améliorer ou de créer. Vous parlez des petites mares, des petits bassins qui permettent aux oiseaux de venir se désaltérer, des insectes aussi. C'est aussi un peu plus d'humidité, hein, autour de son espace de jardin. Il y a aussi, vous le rappeliez, même les prédateurs, hein, du jardin ont leur place et ça fait partie de la nature. Et on arrive donc à la troisième partie, la pollution. Et
ouais.
Là, vous nous rappelez là encore, hein, les fameux polluants qui sont partout.
Oui, alors ils sont effectivement partout, mais à des degrés divers. Et donc j'essaye d'améliorer nos connaissances, en fait, hein, par rapport à ça. Souvent on est pas assez conscient, ou alors on s'inquiète pour rien, ou au contraire on ne se rend pas compte de la mauvaise qualité du sol qu'on a. Bon, donc j'essaye de tout simplement d'apporter les connaissances qu'il faut pour que les jardiniers fassent ce qu'il faut pour se protéger contre les pollutions. Et c'est pas du tout impossible. Hein. Je donne des solutions. Hein. C'est le titre du bouquin. C'est de faire des constats. Bon, c'est sûr que je fais des constats qui sont pas toujours amusants, mais je trouve que le défi qu'on a en tant que jardinier, il est intéressant. Il est même passionnant, il n'est pas du tout désagréable à faire. Au contraire, moi, je prends plaisir à tout ça. Et c'est une aventure, en fait, qui est très intéressante, y compris se protéger contre les pollutions, apprendre ce qu'il peut y avoir dans un jardin, en fonction de la localisation où on est. Si on est dans des zones où il y a, industriels, en ville ou à la campagne, bon, c'est pas pareil. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à apprendre, et ça reste malgré tout agréable et un plaisir, quoi, de jardiner.
Exactement. Et en plus, on a cette incroyable valorisation lorsque l'on fait découvrir son jardin à ses proches, de montrer que les couleurs, les formes, cette diversité, cette richesse, elle est le résultat d'un travail en adéquation avec les conditions que l'on a aujourd'hui, que ce soit climatique ou de pollution. On a comme ça donc des centaines de conseils de bon sens, des cas pratiques, parce que je le rappelle, à chaque fois, vous nous précisez en direct de mon jardin où on découvre à travers un encadrer ce que vous avez essayé, ce qui a marché, ce qui a peut-être un peu moins marché, ce que vous nous rappelez aussi avec des graphiques, ce que l'on peut malheureusement découvrir. Ce sont des constats, mais plus tôt on les fait, mieux on peut les prévenir. Hein. Et puis surtout si on est dans des zones où c'est pas encore arrivé, ces problèmes de sécheresse, ces problèmes de pollution diverses, on peut anticiper, prévenir ces difficultés qui sont rencontrées dans d'autres jardins et ainsi s'éviter des problématiques qui sont déjà existantes ailleurs. Ce sont là des vraiment des très bons conseils. En plus, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous nous donnez à découvrir des liens sur internet, d'autres ouvrages faits par vos confrères. Alors là encore, hein, des liens qui peut-être vont peut-être effrayer certaines personnes, mais plus tôt on fera le constat, mieux ce sera. Et on rappelle, hein, il y a oiseaudesjardins.fr, il y a des informations sur les fameuses plantes invasives, parce qu'on a vu beaucoup de gens qui partent en jardinerie découvrir de magnifiques plantes qui viennent de très loin, qui ramènent souvent peut-être des parasites, des terres polluées, et qui après, c'est très difficile de s'en débarrasser, alors qu'il existe des plantes locales et qui sont formidables, parce qu'elles ont toujours existé, et puis elles se plaisent bien. Et puis il y a une faune qui va avec et qu'il faut conserver à tout prix. Tout ça, donc, on découvre dans votre ouvrage, dont on rappelle le titre, Solution pluriel, Solution pour un jardin résilient, les questions de climat, de pollution, de biodiversité. En plus, magnifiques illustrations en couleur. On doit ces photos de votre main?
Beaucoup, la plupart, oui. Puis sinon, d'une consoeur avec laquelle je travaille beaucoup, qui s'appelle Sandra Lefrançois, qui a fait beaucoup de photos aussi, chez moi, dans mon jardin, notamment.
Car là, les photos de sont de chez vous, donc on est vraiment in situ dans votre auprès de chez d'un vrai passionné du jardin qui travaille la terre et qui voit donc l'évolution apportée et les résultats donnés. Merci à vous, Jean-Paul Torres. On rappelle qu'on peut vous retrouver donc à travers Solutions pour un jardin résilient, un ouvrage à retrouver donc en librairie aux éditions Terre Vivante, et puis elle cite terrevivante.org pour en savoir plus, celles et ceux qui veulent découvrir quelques pages, le commander en ligne et puis peut-être échanger avec vous à travers cette maison d'édition terrevivante.org. On rappelle aussi que c'est un livre éco-conçu avec un papier issu de forêts exploitées en gestion durable. Là aussi, c'est important. On n'a pas trop parlé des forêts, mais c'est aussi un autre sujet. Mais là, on reste dans le jardin. Là, les Français sont d'ailleurs nombreux à être retournés dans le jardin avec la période qu'on a vécue ces deux dernières années. C'est l'occasion d'avoir tout de suite les bonnes pratiques pour avoir un magnifique endroit de vie en adéquation donc avec des valeurs. Et c'est ce qu'on retrouve dans votre ouvrage Solution pour un jardin résilient. Merci à vous, Jean-Paul Torres. Au revoir.
Merci. Merci beaucoup. Vous en avez bien parlé.
C'est gentil. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho.
Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas.
dice Tatao.
Hablándote claro, no te necesito. Perdiste, alguien auténtico. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo nos comíamos.
Cuenten más historias, no quiero saber cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien.
Te felicito, que bien actúas.
De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho.
Te felicito, que bien actúas.
De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa.
Te queda bien ese hecho.
Et nous retrouvons Anthony Auffray, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un magnifique album de bande dessinée. Il s'intitule Le Mirage de la croissance verte. C'est paru aux éditions Delcourt dans la collection Octopus. Vous en êtes à la fois le scénariste, l'illustrateur, et c'est un one shot, c'est-à-dire un récit en un seul volume. Alors, tout d'abord, avant d'évoquer ce titre, Le Mirage de la croissance verte, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? C'est pas votre premier album?
Non, du tout. Alors, c'est mon troisième album. J'avais fait auparavant deux albums chez Casterman, deux albums jeunesse, d'aventure, un peu à la Indiana Jones.
Et aujourd'hui, vous nous revenez avec un sujet des plus actuels. C'est des questions d'écologie. Et pour cause, vous revenez sur un sujet qui a beaucoup fait écho, c'est cette fameuse convention citoyenne sur le climat qui a été lancée il y a quelques années et dont le 29 juin 2020 était une date très importante car notre président Emmanuel Macron en a adopté des propositions citoyennes. Elles sont au nombre de 146. C'est ce qu'on découvre ou redécouvre pour celles et ceux qui sont attentifs à cette convention citoyenne. Donc dans votre ouvrage. Alors déjà, comment vous est venue l'idée de cet album?
Alors moi, c'est d'abord une certaine inquiétude à propos de tous ces problèmes qui s'amoncellent sur l'écologie, mais aussi sur l'économie. Et c'était en fait en rassemblant tout un ensemble éparse d'informations, de documentation qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc le livre évidemment est sorti de ce besoin d'un peu de synthétiser toutes ces connaissances et finalement d'en vulgariser tous les problèmes auxquels on va être confronté en fait.
Alors c'est destiné à tout public, hein, celles et ceux qui connaissent déjà le sujet ou des gens curieux qui veulent passer un bon moment parce que faut le préciser, on apprend beaucoup de choses et avec de l'humour, du second degré, car notre personnage, ils sont plusieurs, hein. C'est pas une bande dessinée didactique sur le sujet, c'est donner la parole à des gens lambda, qui, pour l'un d'entre eux, qui s'appelle Arnaud, qui, comme beaucoup de Français, quand il a vu le discours du président Macron, s'est dit « Ah bah chouette, enfin quelqu'un qui prend les choses en main, on va dans le bon sens, après la COP21, etc. etc. » Or, arrive un personnage plus âgé qui s'appelle Doc. Alors on pourrait imaginer que c'est quelqu'un...
C'est un personnage qui est emprunté au Doc de... Retour vers le futur,
qui est donc quelqu'un qui va nous rappeler
qui va désenchanter en fait tout l'imaginaire d'Arnaud à propos de cette convention et de cette croyance en la technologie qui serait la seule capable de nous sauver.
Alors évidemment, il va y avoir des situations à la fois drôles et je dirais entre guillemets pathétique parce qu'on se met à la place d'Arnaud, on se dit oui, après tout, cette proposition elle est formidable, et Doc arrive et dit ah oui, tu penses ça? Alors je vais te faire découvrir ce qu'il en est réellement.
Parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a un énorme fossé, et c'est ce qu'on va découvrir page après page dans cet album qui compte une quarantaine de pages. Voilà. Donc c'est un ouvrage où on va partir à la fois du côté d'Arnaud, un peu naïf, un peu qui pense à la parole politique, qui pense que c'est comme ça, hein, puis que les solutions vont arriver du haut, et puis Doc qui lui a les deux pieds bien dans la terre et qui va lui rappeler que telle et telle chose qui existe déjà ou qui sont prévues vont pas forcément apporter des solutions proposées et annoncées.
Alors voilà, ça va être un peu plus compliqué. Arnaud, en fait, enfin tous ces personnages, c'est un peu moi en fait, mais c'est vrai que le Arnaud c'est un peu moi il y a quelques années en fait.
Un peu le français moyen qui regarde les informations et qui pense un peu naïvement dans son salon.
Il y a des gens compétents qui
s'occupent de tout.
Plus, qui vont s'occuper du problème et que finalement sans sobriété, c'est-à-dire sans réduire nos usages ou sans modifier nos comportements, notre mode de vie, ça devrait passer. Et malheureusement, si on doit évidemment s'appuyer sur l'innovation technologique pour réduire une partie des problèmes, on va aussi devoir faire de la sobriété. C'est d'ailleurs ce qu'invite le GIEC à faire dans son dernier rapport. Faire de la sobriété, c'est-à-dire réduire nos usages, c'est-à-dire au lieu de prendre la voiture, prendre le vélo. Si on doit garder la voiture, au lieu de prendre une grosse voiture, on prend une petite voiture qui consomme beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de ressources.
Alors vous êtes aussi vous avez aussi remis des graphiques que vous avez.
C'est assez sourcé. Alors c'est vrai que c'est un récit d'humour. Bon, ça permet de
dédramatiser la situation.
Voilà, ça permet de créer une distanciation avec le récit, avec des nouvelles qui sont pas forcément très amusantes de premiers abords. Et des graphiques pour essayer de montrer la réalité de certains phénomènes, sur par exemple les problèmes de taux de croissance qui se dégradent d'année en année. Comment faire alors que notre système fonctionne grâce à la croissance, comment faire sans? Et on s'aperçoit que quand on ne réfléchit pas à ces questions, on voit notre système économique, nos systèmes sociaux qui se dégradent d'année en année lui aussi.
Alors il y a des thèmes formidables. Alors évidemment, on évoque la destruction du vivant, le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, la destruction de l'environnement à travers des chapitres comme notre croissance est-elle durable? Qu'est-ce que la croissance? Déjà, ça commence déjà par.
Oui, voilà. C'est quoi la croissance? Définition des termes. Voilà. J'ai fait mon petit élève sérieux. D'abord, on définit les termes du problème.
Et on découvre notamment ce besoin de transition énergétique. C'est vraiment pas aussi évident que l'on croit. Il est notamment question des éoliennes.
Alors les éoliennes, ça peut être l'une des solutions, les éoliennes. Mais comme on le voit, tout système énergétique met du temps à se modifier, à se changer. C'est un auteur comme Vaclav Smil qui le dit très bien, c'est qu'en fait nos systèmes énergétiques sont construits sur le temps long et jusqu'à maintenant on a été incapable de transformer radicalement le système, parce que dans le même temps qu'on développe les éoliennes ou les panneaux solaires, on continue à investir dans les énergies fossiles. Et donc le rattrapage est en fait de plus en plus dur.
Voilà, et aussi, juste pour reprendre la planche page 78 sur les éoliennes, ça demande aussi de l'acier.
Alors c'est très dépendant en ressources, c'est bien plus dépendant en ressources, par exemple, que le nucléaire, parce que c'est une énergie diffuse, donc il demande beaucoup plus d'espace pour capter l'énergie que nous recevons, soit du vent, soit du soleil. Et là, pour le coup, des éoliennes, il y a des problèmes Disons qu'il y aura des tensions sur les matériaux, mais il y a aussi des problèmes politiques, puisque finalement, ça peut être très dur dans certaines régions au niveau de l'acceptabilité des installations. Moi, je vois, j'habite en Bretagne, les champs d'éoliennes qui sont sur la côte ne sont pas toutes. Enfin, il y a des refus, il y a de vraies difficultés des populations à accepter des champs d'éoliennes en face d'eux, en fait.
Surtout qu'on ne sait pas trop si elles vont vraiment produire ce dont on a besoin. Est-ce que ça ne va pas saccager les fonds marins? Est-ce que ça ne va pas...
Alors,
il y a beaucoup de questions qui se posent.
Alors, il y a des questions. Bon, ce qui se passe au niveau des fonds marins, c'est que maintenant, genre, je parle des éoliennes maritimes, c'est qu'on fait des éoliennes flottantes. Donc, qui théoriquement donc n'affectent pas les fonds marins. Donc, mais c'est évident, c'est plus compliqué à mettre, c'est plus compliqué à installer, ça peut coûter plus cher aussi. Donc voilà, mais à chaque fois, ce sont des choix. Le problème, c'est qu'on a tardé, on continue à repousser les échéances, et plus on tarde, plus les choix qui s'offrent à nous s'amenuisent.
Alors, on arrive justement à ces chapitres de fin de votre ouvrage. On s'adapte ou on subit. Une autre voie est-elle possible? Il y a aussi des voies d'espérance dans votre ouvrage.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a comme dans tout récit, il y a toujours un Deus ex machina. Et là, le Deus ex machina, ça peut être la décroissance, par exemple. La décroissance, c'est-à-dire, c'est admettre que finalement la seule innovation technologique ne va pas suffire. C'est admettre que notre système économique a de plus en plus de mal à créer de la croissance, de l'activité, enfin des revenus sur l'activité économique. Donc, face au problème de temps que nous avons, face aux défis que nous allons devoir affronter, la décroissance, en fait, c'est réduire notre activité économique du point de vue individuel, mais c'est aussi se concerter collectivement pour réduire notre activité économique, pour ralentir en fait et pour être moins prédateur des ressources de l'environnement, pour essayer de garder un environnement un peu stable, un peu plus vivable pour nous dans 30-40 ans, mais aussi pour les générations futures.
Et c'est donc tout ce dont on peut retrouver dans Le Mirage de la croissance verte. Et puis, vous nous avez mis pour aller plus loin avec de très nombreuses sources bibliographiques, sources des graphiques, des informations que vous avez épuisées dans tel ou tel document. Et pour celles et ceux qui sont un peu curieux, qui veulent aller au-delà donc du Mirage de la croissance verte, votre ouvrage, on peut ainsi retrouver les informations que vous avez découvertes en allant notamment... lire des spécialistes qui ont travaillé sur le sujet.
Ah oui, d'ailleurs, je tiens à remercier mes deux relecteurs, Timothée Parik, qui est économiste, qui lui s'intéresse aux notions de décroissance et de post-croissance, et ainsi que le réveilleur, Ralph Meyer, qui lui vulgarise sur sa chaîne YouTube les problématiques de climat et d'énergie.
Donc, on rappelle, Le Mirage de la croissance verte, c'est un album où on apprend beaucoup de choses, où on sourit, on rit, on dédramatise la situation pour mieux avancer dans ce sujet qui est très compliqué, parce que, comme vous le rappeliez sur les éoliennes, mais sur beaucoup d'autres sujets, il y a des pour, des contre, et il faut penser aux générations futures. On voit avec cette période que l'on vit, entre la sécheresse, la vie qui devient de plus en plus chère, eh bien, il existe des solutions. Et il faut donc par la base chaque citoyen prenne ça en main pour qu'on avance tous.
C'est éviter de subir les événements et les prendre à bras le corps en fait.
Et que chacun à sa hauteur peut
faire sa part. Alors on peut individuellement. Mais comme je le précise dans le livre, le mieux c'est que collectivement, parce que collectivement on aura quand même le plus gros levier, de plus de leviers pour agir sur les effets délétères de notre activité et puis du réchauffement climatique.
Et pour cela, on découvre Le Mirage de la croissance verte, un album paru aux éditions Delcourt dans la collection Octopus. Et on vous dit, Anthony Offray, peut-être y aura-t-il un futur ouvrage sur un sujet connexe à la croissance verte, à l'écologie?
Alors, peut-être, alors pas le prochain, mais sur un suivant, ça serait plutôt sur le nihilisme, et c'est sur notre inaction vis-à-vis des actions que nous devrions entreprendre. Parce qu'on voit, il y a une partie de la population qui résiste, qui est dans le déni, et c'est cette population-là qu'il faut absolument qu'il va falloir
aller chercher.
Oui, aller chercher, merci. Chercher mes mots.
Eh bien, en attendant, on va découvrir le mirage de la croissance verte, à découvrir donc chez Delcourt. Celles et ceux qui veulent en savoir plus, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou on va directement sur le site édition-delcourt.fr.
Alors, sur Instagram, en cherchant sur Anthony Oufrette, on doit pouvoir me trouver.
Très bien. Eh ben, on va aller voir ça. Et puis, on vous souhaite beaucoup de succès pour ce très bel album. On dit, hein, c'est vraiment pour tout le monde, toute la famille.
C'est pour moi, c'est pour les enfants, c'est pour moi il y a 10 ans. Enfin, c'est.
Oui, c'est vraiment.
Pour ceux qui n'avaient pas conscience de l'immensité des soucis.
Voilà. Et en plus, on passe un très bon moment parce que nos personnages, à la fois, ils sont proches de nous, ils sont attachants et on peut se projeter. On découvre aussi, bah, qu'on est tous un peu, hein, un peu Arnaud, un peu Doc, un peu sa compagne. On peut tous se retrouver dans ces personnages et on passe un très bon moment en compagnie d'eux. Parce que bah, c'est notre époque, hein, c'est un ouvrage contemporain et qui parle de nous. Bah, merci à vous, Anthony Oufrette, et puis on vous souhaite donc beaucoup de succès pour ce très bel album. Au revoir.
Merci, au revoir.
Vous êtes à l'écoute de Mission Verte. Alors, que se passe-t-il côté biodiversité? Je vous propose des applications pour identifier une plante facilement. Bah oui, vous savez, on tombe sur une belle plante qui éveille la curiosité lors d'une promenade et on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. Eh bien ici, vous allez découvrir comment reconnaître cette plante. Évidemment, ce sont des applications à télécharger sur smartphone, mais qui sont gratuites. Alors, vous avez Seek by eNaturalist, qui permet non seulement de reconnaître des plantes, mais pas que. On peut découvrir des oiseaux, des reptiles, des insectes ou encore des mammifères que l'on peut donc rencontrer lors d'une balade. C'est un réseau social qui regroupe des biologistes et experts de la faune et de la flore. Et ainsi, vous prenez en photo la plante ou l'animal avec donc votre téléphone et tout de suite l'application analyse la photo et affiche les informations de la variété ou de l'espèce en question. Autre application, vous avez PlanteNet, PlanteNet. Là encore, c'est une application spécialisée dans l'identification des fleurs, fruits et feuilles. Alors là encore, vous prenez une photo la plante que vous souhaitez soumettre à une liste. Et ensuite, l'application vous dit de quoi il s'agit. Alors vous avez une autre application, c'est Picture This, qui veut dire en fait prenez cette photo. Et là encore, c'est toujours sur le même principe. Vous avez Clé de forêt, qui est une application qui identifie arbres et animaux forestiers. Alors, ici, vous répondez à quelques questions, pas besoin de faire de photos. Et après, vous aurez, grâce à cette application, la possibilité de découvrir de quoi il s'agit. Alors, c'est une application développée par l'Office national des forêts. Et il n'y a pas besoin de connexion Internet. Et elle peut être téléchargée gratuitement. Vous avez autre application Smart Flore, Sauvage de ma rue, Plante Snap, Flore Incognita ou encore Leaf Snap. Alors ce sont, vous l'avez compris, des applications qui apparemment pour la plupart fonctionnent très facilement. Vous avez qu'à prendre ou pas la photo ou répondre à des questions. Et puis ensuite vous avez une réponse instantanée de ce que vous recherchez. Alors, si vous voulez en savoir plus, hein, n'hésitez pas à aller sur un moteur de recherche. Vous mettez « application pour identifier une plante facilement » et vous retrouverez cette liste, entre autres, hein, d'applications gratuites à télécharger. Et nous arrivons au terme de l'émission. Alors, ça semble tout comme à chaque fois par une citation. Charles Darwin a dit « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement ». Je vous laisse méditer dessus. Merci encore pour votre écoute sur IDFM Radio. Merci à Francky pour la technique. Mission Verte, votre rendez-vous environnement sur IDFM Radio. À la semaine prochaine, dès 10h jeudi. Et n'oubliez pas, d'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur IDFM98.fr. À suivre votre émission Croisière Musicale. Au revoir.